La France bouge avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Pendant une heure, nous allons découvrir des entreprises qui deviennent les actrices du changement, des patronnes et des patrons qui imaginent déjà le monde de demain. La France bouge. Ici, c'est simple, on trouve des solutions et elles sont françaises. Ensemble, on en parle avec vous, Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag. Bonjour à toutes et à tous. Les fonds d'investissement ont rarement la cote et pourtant ils sont partout dans l'économie française et de plus en plus. Qui sont, tiens, les gros acteurs français? Que font-ils? Comment investissent-ils? Qu'est-ce que la crise change en ce moment? On en parle notamment avec Virginie Morgon, c'est la patronne d'Euraseo. Et Euraseo, c'est une des plus grosses sociétés d'investissement de France.
À la une, il y a les fonds qui décident d'investir dans des start-up. Il y a aussi ceux qui investissent directement dans les marques. C'est le cas d'Experience Capital. Depuis 5 ans, son fondateur, Frédéric Bius, est avec nous.
Des fonds d'investissement responsables. Est-ce antinomique? Raise, en tout cas, on a fait de la finance engagée son modèle. Son cofondateur sera lui aussi avec nous dans La France bouge.
Chaque jour, une entrepreneur ou un entrepreneur vient nous présenter son projet. Aujourd'hui, un dîner pour le climat, des petits plats et des menus avec le plus bas impact carbone. De quoi s'agit-il? Ce pitch va-t-il vous convaincre? Réponse à 13h45 autour de la table des investisseurs.
Et puis demain au travail, pour motiver les salariés, l'entreprise Castelli propose des team building en ligne. C'est quoi donc tout ça? Eh bien, on en parle vers 13h50.
Et oui, c'est ça, la France bouge. Restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Et oui, bien sûr qu'elle bouge encore cette France. Et on va en parler encore aujourd'hui avec donc ces sociétés d'investissement, toutes ces structures financières. Alors, je suis sûr que vous vous dites, oh là là, ce sont des grands méchants loups. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire à la France bouge? Bah, restez avec nous jusqu'à 14h.
Bonjour Virginie Morgon.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la présidente du directoire d'Euraseo. Euraseo, c'est une société d'investissement. Certains parlent d'un fonds, de fonds d'investissement. Votre groupe est au capital de 450 entreprises. Vous existez depuis 2001 et vous êtes l'un des précurseurs en France de l'investissement dans les entreprises non cotées. Vous avez 22 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Alors, on va essayer de comprendre, si vous le voulez bien, votre rôle et de quelle manière vous faites du bien, et oui, du bien aux entreprises. Vous n'êtes pas le grand méchant loup qu'on aime à dire qu'il va tout bousculer. Non, pas du tout. Alors d'abord, ma première question, Virginie Morgon, comment s'est passée cette année pour vous? Comment ça va?
Écoutez, d'abord, j'adore votre introduction. C'est parfait, c'est magnifique.
C'est pas bon signe, ça, c'est
merci,
qu'on est trop gentil. Alors.
Merci, de... mais si, parce que vous avez dit qu'on était bienveillants. Ici, dans le monde qui bouge. Écoutez, l'année s'est passée, elle a été hors norme, aussi bien pour le positif et aussi le négatif, il ne faut quand même pas l'oublier. Donc une année 2020 hors norme, dont Euraseo sort en forme.
Donc ça va bien pour Euraseo.
Voire même renforcée. Et donc c'est une bonne nouvelle, absolument. Mais pour des raisons fondamentales, structurelles,
quand
de choix d'investissement et... De géographie dans laquelle on opère.
Donc quand vous dites que ça va bien dans cette année hors norme, avec des bons côtés et des moins bons, mais ça c'est évident, ça veut dire quoi?
Une gestion par les équipes extraordinaires, et je pense que n'importe qui le dira, nous avons tous été fiers, formidablement surpris par la réaction et la réactivité de nos équipes au cœur de la crise. Et puis un rebond d'activité à partir de août-septembre l'année dernière et en fonction de qui vous êtes et là où vous opérez, là où vous investissez, plus ou moins d'accélération. Euraseo, ça a été effectivement en 2020 des croissances en fait historiques puisqu'on a atteint le record de levée de fonds, le record d'actifs nets réévalués parce que Euraseo avait investi dans des secteurs depuis bien longtemps qui sont notamment ceux de la tech et de la santé. Puisque c'est plus de 50% des 22 milliards que vous évoquiez tout à l'heure, Elisabeth. Donc, on a, après les 3-4 mois difficiles de mars à mai-juin, bénéficié indéniablement de ce pivot dont tout le monde parle et qui est réel.
Pour qu'on comprenne bien, ça fait quoi une société d'investissement? Est-ce que ça s'intéresse à l'avenir de l'entreprise ou ça vient toujours pour gagner de l'argent beaucoup et rapidement?
Oh, je pense que vous connaissez la réponse avec la façon dont vous posez la question. Une société d'investissement ou un fonds d'investissement, Frédéric en parlera tout à l'heure,
Frédéric
c'est
Bius.
Les mêmes métiers, Frédéric Bius, c'est l'investissement sur le long terme pour accompagner des entrepreneurs ou des équipes de management dans un projet auquel on croit. Et nous pensons que la cohabitation et le partenariat entre l'équipe et l'investisseur va accélérer le plan de développement.
Alors pour qu'on comprenne bien, comment vous choisissez une entreprise ? Vous le dites, on avait fait les bons choix, c'est ça qui nous permet aujourd'hui de mieux s'en sortir. Qu'est-ce qui fait qu'il y a 5-10 ans, vous vous êtes dit, l'économie française qui va marcher, ce sera la tech, ce sera la santé ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait le succès ou pas d'un bon investissement ?
Le choix du secteur dans un premier temps. Donc il y a 7-8 ans, l'explosion de cette offre dite de tech aux États-Unis ou en Israël, et en réalité beaucoup de retard en Europe continentale notamment. Et donc le choix pour Euraseo de miser sur des grands entrepreneurs, des ingénieurs français et européens, et continuer le travail qui est fait depuis très longtemps, plusieurs décennies, par les investisseurs très early stage, dit du venture, pour accompagner sur ce qu'on appelle du capital croissance. C'est ça la vision il y a 10 ans.
Donc ça signifie qu'il y a 10 ans, vous vous êtes dit, on va investir dans la santé et dans le digital. Et là, quand on vous écoute parler, on a l'impression que finalement, la crise est arrivée au bon moment, parce que vous avez récolté tout ce que vous avez semé depuis 10 ans.
Je crois qu'on ne peut pas dire, ça serait terrible d'utiliser ces mots, que la crise est arrivée au bon moment, mais ce qu'on peut dire positivement, c'est qu'il y a au moins deux choses qui pour moi sortiront très positivement de cette crise Covid, cette accélération du tout digital, où beaucoup disent, et moi je le dis aussi, que nous avons gagné en 6 mois ce qu'on n'aurait jamais rêvé d'atteindre en 5 ans. Et la deuxième chose, c'est l'engagement et la pérennité, la durabilité, la responsabilité, mais on en parlera.
Parce que ce qui est intéressant aussi, là vous dites la tech, la santé, des choses d'avenir, mais des sociétés comme vous, si on prend l'exemple de Euraseo, c'est aussi trouver des belles endormies qu'on peut réveiller ou on peut permettre d'accélérer le développement. Je vais prendre l'exemple des doudous de Moncler, qui est l'un des plus beaux investissements, peut-être, en tout cas qu'on connaît tous d'Euraseo. Comment à un moment on se dit, tiens, ce truc, ça peut 1000 fois mieux marcher que ce que ça marche aujourd'hui ?
Vous vous entourez d'experts. J'aurais pu travailler ce dossier avec Frédéric ou avec certains de ses associés.
On va en parler
qui est un très grand investisseur dans des marques. Vous vous entourez d'experts. Vous forgez une opinion sur la marque elle-même et sur sa capacité de développement. Et puis, vous êtes plus ou moins développé à l'international. C'est le cas de Euraseo aujourd'hui, parce qu'on est présent dans plus de 10 pays, 11 précisément, et la capacité de développer certaines de ces marques aux États-Unis ou en Chine, elle est fondamentale dans l'analyse du potentiel.
Quand vous dites que vous vous entourez d'experts, on ne parle pas du tout d'argent là depuis le début. C'est quand même...
L'argent, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant.
Donc, alors, c'est qui ces experts ?
Vous ne pouvez pas envisager d'investir sans avoir des moyens financiers. Donc, on démarre avec des moyens financiers, c'est sûr. En fonction de la taille de vos moyens, vous visez une taille d'opération qui vous correspond. Mais ensuite, il faut convaincre. Vous êtes autant choisi par les entrepreneurs ou les équipes de management que vous les choisissez vous-même. Ne jamais l'oublier.
Oui, parce que parfois, on vient bousculer un management. On vient lui dire à des familles qui sont installées depuis un bout de temps ou quelqu'un qui a créé sa boîte ou c'est son bébé, c'est sa passion. On lui dit, là, il va falloir prendre la route de gauche plutôt que la route de droite. Donc, c'est ça aussi qui est compliqué.
Qu'est-ce que vous avez à leur offrir ? Vous représentez... On est tous extrêmement différents. Peut-être qu'on fait tous le même métier, qui est un métier professionnel, engagé, avec des compétences extraordinaires, qui attirent de plus en plus de très grandes compétences, y compris du monde corporate. Mais on le fait chacun à sa manière. Donc beaucoup diront qu'on a un ADN, je trouve que c'est un mot un peu galvaudé, mais on a notre façon d'être, et notre façon de faire. Et vous êtes choisi par un entrepreneur ou par une équipe de management parce que c'est vous, parmi toute cette offre extrêmement professionnelle des fonds d'investissement ou des sociétés d'investissement, c'est avec vous qui veulent faire cette affaire.
Virginie Morgon, c'est un record de levée de fonds hein, cette année inédite et historique, en cette année hors norme. C'est ce que vous nous dites, vous êtes la présidente du directoire d'Euraseo et vous restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Alors vous entendez souvent, un fonds d'investissement arrive dans une entreprise. Parfois on dit que ce sont des grands méchants loups. Ben nous on essaye de vous emmener aujourd'hui dans les coulisses de ces fonds d'investissement et on l'entend depuis le début de cette émission. Ça peut paraître complètement étonnant, mais cette année 2020 a été assez inédite dans la recomposition et dans une forme d'accélération et de transformation de notre économie, notamment pour tout ce qui peut concerner le numérique.
Et on continue à en parler avec vous Virginie Morgon. Vous êtes la présidente du directoire d'Euraseo. Vous êtes notre patronne du jour. Il y a les fonds qui décident d'investir dans des startups, il y a ceux qui investissent dans des marques. Alors tiens, si je vous dis Balibaris, le slip français, Sœur, Figaret, Leur point, il y en a plein d'autres. Hein. Leur point commun, eh bien, c'est que c'est du luxe abordable. Et c'est là-dessus que vous misez au début. Bonjour Frédéric Bius.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le fondateur d'Experienced Capital. Ça existe depuis 2016. Mais Frédéric Bius, vous, ça fait très longtemps, hein, d'après mes petites informations, qu'à titre personnel, vous investissez dans des sociétés pour les soutenir. Hein. Je crois que ça a même commencé avec la marque Sandro en 2007. La marque était en faillite et vous, vous y aviez mis la totalité de vos économies.
Oui, plus que ça, j'avais vendu mon appartement, je m'étais endetté deux fois autant et avec mon associé historique, Elie Koubi, que j'avais rencontré chez Comptoir des Cotonniers, tous les deux, on avait décidé de repartir à zéro, de diviser notre salaire par 5, puisqu'à l'époque, je travaillais pour Uniqlo. Et on avait racheté cette marque qui était magnifique et dans laquelle on s'est bien amusé.
Non mais vendre son appartement, y mettre toutes ses économies, il se passe quoi dans la tête, dans votre tête à ce moment-là? Comment est-ce possible?
Bon, je pense qu'on a tous des joies, on a tous des tristesses, on a tous des succès et des échecs. Et moi, je pars du principe que tant qu'à échouer, autant le faire avec panache. Donc, du coup, j'ai tout mis. J'y suis allé, mais j'y croyais, parce qu'à la tête de Sandro,
mais c'est ça le plus important. Et c'est
il
ça
y avait
qui était
une fondatrice exceptionnelle.
Le sous-jacent de la question d'Elisabeth, c'est qu'à un moment, vous vous êtes dit « je peux faire tapis parce que je suis sûr que je vais gagner ».
Oui, c'est ce que disait Virginie Morgon tout à l'heure. En fait, on investit d'abord dans des fondateurs. On investit dans des personnes dans lesquelles nous croyons et qui nous font confiance. Et nous avions chez Sandro sa fondatrice Evelyne Chetrit, qui était une designer hors pair et qui avait besoin de personnes pour l'aider. Et donc, on a créé un trio. Et ce trio a cartonné, mais on aurait très bien pu échouer aussi, mais c'est la beauté du métier, c'est qu'on y va parce qu'on y croit.
Donc un trio qui a cartonné, et avec les deux autres anciens dirigeants de ce groupe, hein, dont vous venez de parler, hein, Sandro Mage, Claudie Pierlot, vous avez ainsi pris, ces trois dernières années, des participations dans 12 marques. 12 marques dont les noms hein, sont connus du grand public. C'est quoi la particularité de votre fonds?
Alors d'abord, c'est un fonds sectoriel. On intervient sur le luxe abordable, ce nouveau marché entre les grandes marques de luxe et les marques de retail un peu plus large. Et puis, on investit dans des marques qui répondent toujours à trois critères. Il faut avoir un super produit, très différent, différenciant, compréhensible, lisible, avec un bon rapport qualité-prix. Il faut avoir une preuve de concept, c'est-à-dire une expérience digitale sur Internet ou en magasin qui fait qu'on comprend l'histoire.
Donc ça ne démarre pas, ça a déjà fait ses preuves.
Toujours, et un fondateur génial. Et encore une fois, en fait, ce sont des métiers qu'on présente comme des métiers financiers, mais c'est avant tout des métiers très humains. On crée une relation, on choisit la personne, mais la personne nous choisit. Et ensemble, on essaye de construire une histoire. Et donc, nous, on va toujours investir d'abord dans des marques qui existent et on va les accélérer.
Alors ça se passe principalement comment? C'est eux qui viennent vous voir maintenant en se disant « Bon, alors t'as réussi à faire ça, 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 aide-nous à nous développer » ou c'est vous qui vous dites en passant devant telle enseigne « Tiens, c'est pas normal, ça devrait mieux fonctionner que ce que ça fonctionne » et donc vous arrivez?
Un peu des deux. Quand on a vendu Sandro et Mage, la marque, le groupe faisait 800 millions d'euros, donc c'est sûr que c'était gros. Du coup, toutes les marques de mode sont venues nous voir pour nous demander de les accompagner. Et on en a choisi quelques-unes, seulement trois. En revanche, nous, ensuite, on a décidé d'ouvrir notre périmètre d'intervention sur aller sur d'autres produits qui suivent en fait notre cliente ou notre client tout au long de sa vie. La cosmétique, l'entertainment, le sport. Et donc, dans ces cas-là, soit on nous appelle, soit tout simplement, on se dit, tiens, il y a cette petite pépite-là qui est très jolie, qui nous intéresse. Et donc, il faut avoir la compétence du métier, mais il faut aussi avoir du nez pour essayer d'identifier les jolies cibles.
Mais vous parlez de nez, ça vous est arrivé de faire demi-tour parce que vous ne sentez pas justement les fondateurs?
Alors ça m'est arrivé de me planter déjà.
mais c'est positif, hein. Nous à la France bouge, l'échec est positif.
Ça fait partie du truc, sinon il y a... Voilà. Et puis oui, par moment, on a trouvé des marques vraiment géniales et à un moment donné, on avait un petit doute sur le fondateur. Pas forcément sur la personne, mais plutôt sur notre capacité à l'emmener à nos côtés. On s'est dit peut-être que les deux personnalités ne vont pas bien ensemble et il sera plus à l'aise avec un autre fond.
Pardonnez-moi l'expression que je vais utiliser, mais est-ce que la crise n'est pas la meilleure des nouvelles pour vous? Parce que des marques vont sortir peut-être, notamment dans vos secteurs, l'habillement, un peu fatiguées par cette crise et elles ont besoin de sous pour accélérer, pour se repositionner. Et là, du coup, vous pouvez accélérer la transformation de ces entreprises.
Une marque faible, elle reste faible. Donc, en fait, pour moi, la crise, ça a été terrible. Je vous avoue qu'on n'a jamais autant travaillé que cette année. On en sort renforcé pour la plupart de nos marques, pas toutes. En revanche, on s'aperçoit que c'est toujours en période de crise que les clients vont se retourner vers des marques qui font référence, qui véhiculent les bonnes valeurs et les bonnes façons de faire. Et donc, du coup, pour nous, la crise a tout simplement installé les marques et ça a concrétisé le travail qu'on faisait depuis 4 ans.
Virginie Morgon, je rappelle que vous êtes la patronne d'Euraseo. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'une des plus grosses sociétés d'investissement de la place de Paris. Est-ce que justement, cette crise, ça offre des pépites là, à relancer, des entreprises qui vont avoir besoin de vous. Vous le disiez, hein, jamais eu autant de levées de fonds qu'en 2020, mais est-ce que ça, il y a des entreprises qui vont du coup vous faire plus appel que d'habitude ?
Alors, on a vu deux choses sur les derniers temps. Effectivement, une accélération dans certains secteurs et cette crise a touché de manière imprévue négativement certains secteurs et accéléré d'autres. On a beaucoup parlé de la tech et de la santé, ce sont deux exemples, mais aussi tout ce qui est lié à la tech. Hein, ça peut être aussi des services physiques comme de la logistique, tous les softwares qui se sont accélérés follement. Après, certains secteurs bien impactés que je synthétise en les appelant voyage et loisirs, travel and leisure.
Vous êtes en avant-poste, hein, vous étiez l'un des plus gros actionnaires d'Europcar. Europcar a failli péricliter lors de cette crise et vous en êtes sorti du coup.
Comme le disait Frédéric Bius tout à l'heure, les entreprises qui sont rentrées affaiblies d'ores et déjà dans cette crise, évidemment, ont eu beaucoup de mal à ne pas être obligées de se restructurer complètement. En revanche, les entreprises qui étaient bien capitalisées avec un positionnement de marque ou d'offre de service, qui évidemment ont souffert pendant quelques mois, je connais assez peu d'entreprises qui n'ont pas souffert, au moins les premiers mois, se sont réinventées et sont reparties avec des hommes et des femmes à leur côté, des capitaux bien sûr, et une reprise d'activité très forte.
Frédéric Bius nous disait qu'on choisit une entreprise, mais on vous choisit aussi. C'est le cas, Virginie Morgon ?
Complètement, c'est ce que je vous disais en propos liminaire. Vous devez choisir les secteurs, les entreprises que vous voulez soutenir et les entrepreneurs surtout. Un entrepreneur, ça fait toute la différence. Le patron d'une entreprise, l'entrepreneur, entre le dossier qui vous est présenté et la première rencontre, ça peut complètement changer la donne dans votre analyse du potentiel et de l'envie. Et nous sommes choisis autant que nous choisissons les patrons.
Ce qui veut dire qu'une entreprise comme la vôtre, vous n'arrivez que si le management est d'accord.
La plupart du temps, oui.
Frédéric Bius, au-delà des marques hein, dans lesquelles vous investissez, vous allez aussi aller vers plein d'autres choses, hein, parce que vous faites vous aussi appel à des investisseurs pour des hôtels que vous êtes en train de monter en ce moment.
Oui, c'est le problème quand on est un peu trop passionné. J'ai créé avec Guillaume Fouché une collection d'hôtels qui s'appelle Les Domaines de Fontenay. Et effectivement, le succès aidant, on avait besoin de fonds pour accélérer notre croissance. Et nous ouvrons fin mai ce qui sera certainement un des plus beaux hôtels autour de Paris, à une heure de Paris, le domaine de Primard. Et pour cela, on s'est appuyé sur des familles françaises, Business Angel, qui nous ont accompagnés pour pouvoir ouvrir plus de très très beaux lieux en France et en Europe.
Donc vous êtes des deux côtés. Merci
des
à vous,
côtés.
Frédéric Bius. Vous êtes le fondateur d'Expérience Capital. Merci d'être
Merci.
Venu dans La France Bouge.
Et Virginie Morgon, la patronne du directoire d'Euraseo. On vous garde avec nous. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h. Et on va continuer justement à parler des fonds.
La Caisse d'épargne vous présente La France Bouge. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Et vous savez quoi, avec Elisabeth, comme chaque jour, on est très heureux de vous accueillir là autour de la table de la France bouge en direct de 13h à 14h du lundi au vendredi. Et notre invitée aujourd'hui, c'est Virginie Morgon, la présidente du directoire d'Euraseo, une des plus grosses sociétés d'investissement de la place de Paris.
Et on a trouvé des entrepreneurs qui sont convaincus qu'une économie est plus performante si les entreprises peuvent allier profit et générosité. Bonjour Gonzague de Blinière.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de Raise, R-A-I-S-E.
Absolument, ça veut dire se mettre debout en anglais.
Et ben on va se mettre debout depuis 8 ans avec votre associée Clara Guémard. Vous avez donc fondé Raise. Votre objectif de départ, c'est de créer un fonds qui ne se voit pas que dans le profit. Il faut qu'il y ait aussi un but philanthropique. Ça, c'est important pour vous.
Absolument. Alors, le mot fonds n'est pas exact. Je voulais créer avec Clara Guémard un écosystème où on essayait de démontrer que finalement, notre raison d'être, c'était le partage, c'était la parité, c'était l'innovation et c'était la mesure de la performance. Et on s'est dit avec Clara que si finalement, on travaillait pour gagner plus, pour pouvoir donner plus et être admiré pour ce qu'on donnait et non pas pour ce qu'on gagnait, dans le monde de l'investissement, c'était pas mal.
Mais concrètement, ça veut dire quoi, donner plus ?
Concrètement, ça veut dire que les fameuses plus-values, la partie des plus-values qui revient aux investisseurs, au général partnership, aux sociétés de gestion,
sur chaque investissement.
Voilà, on en donne la moitié à une fondation qui s'appellerait Sherpa, et cette fondation aide les entrepreneurs à se créer, les accompagne, leur font des prêts d'honneur. Et pour ça, on a été voir des investisseurs, on a été voir toutes les boîtes du CAC 40. On a d'ailleurs Euraseo comme actionnaire, qui est la seule société de private equity qui a investi chez nous, je le dis et je la remercie, en disant bah finalement, on va faire quelque chose de bienveillant, de citoyen et rentable. Aider les entrepreneurs pour créer des entreprises.
Et pourtant, vous connaissez mieux que personne ce métier, puisque vous avez dirigé Barclays en France pendant des années, une des grosses sociétés d'investissement. C'est parce que vous en avez eu marre et que vous vous êtes dit qu'il y a une autre façon de faire ce métier ?
On a créé ça à un moment où, vous savez, il y avait la première de Libération qui disait, c'était en 2012, sur le première de Couve, c'était « Jeunes de France, barrez-vous, l'avenir est ailleurs ». Et on s'est dit, on peut pas laisser ça. Pour créer des emplois, il faut aider les employeurs. Notre métier, le monde du private equity, est un métier formidable, comme l'ont dit Frédéric et Virginie. On accompagne des entrepreneurs dans des projets fantastiques, mais si on peut le faire avec une raison d'être, et on est natif avec cette raison d'être, qui est le partage, la bienveillance et la parité et l'innovation et la mesure de la performance, on en sera heureux. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on ne l'imaginait absolument pas avec Clara quand on a créé Raise. On a un peu plus d'un milliard trois, on est une soixantaine.
En parité totale. Hein.
Parité totale, à tous les niveaux, hein. c'est une règle. Et en 7 à 8 ans, lever 1,3 milliard, je pense que Virginie pourrait le dire, c'est quand même pas mal.
Alors 1,3 milliard en 8 ans, cette année, cette année aussi a été particulière pour votre entreprise.
Comme toutes les entreprises, ça a été une année difficile. Et comme l'a dit Virginie, c'est vrai qu'on a été surpris par la motivation des équipes qui voulaient encore plus dans cette adversité. Réussir à travailler mieux, à travailler ensemble. On l'a fait bien sûr en respectant les règles du gouvernement, mais on a le sentiment qu'il y a quand même une petite innovation, c'est que la solidarité est un signe qui est arrivé un peu dans le monde du private equity, parce que ce monde a bougé. Le monde des investisseurs, les fonds d'investissement...
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? En quoi vous voyez cette solidarité arriver, comme vous dites ?
Parce que les fonds d'investissement sont des fonds qui finalement accompagnent les entreprises dans les moments faciles, mais aussi dans les moments difficiles. Et on pourra quand même constater que la plupart des fonds d'investissement... Quand vous êtes en bourse, c'est une chose. Et la bourse, vous ne pouvez pas l'appeler quand elle ne va pas. Quand vous êtes avec un investisseur non coté, vous pouvez discuter avec lui, vous organiser, trouver ces fameux prêts garantis par l'État, aider à négocier avec les banques. Et c'est ça le rôle de l'investisseur, c'est de l'accompagner et de l'aider. Nous, on l'a fait toujours avec notre raison d'être chevillée au corps.
Mais en vous entendant tous parler là depuis le début de l'émission, on a l'impression que votre image est en train de s'adoucir. Vous êtes en train de devenir plus humain quand on vous entend.
Je pense que c'est un métier qui, dès l'origine, était humain. Parce que le choix d'une entreprise, c'est bien sûr un marché, c'est bien sûr d'aller chercher des professionnels qui vous aident, mais c'est une relation humaine avec un entrepreneur. Vous savez, moi je dis toujours, un entrepreneur moyen avec une entreprise fantastique, ça ne marche pas. Par contre, un entrepreneur top avec une entreprise moyenne, ça marche toujours, parce qu'il pivote, parce que voilà. Donc l'humanité a toujours existé dans ce métier. Le métier de départ, en 1980, quand il est arrivé en France, c'était du capital risque, c'est qu'on finance le projet d'un entrepreneur. On n'achète pas des entreprises, on accompagne des entrepreneurs.
C'est important le mot d'accompagner, je pense, Virginie Morgon. Je rappelle que vous êtes la présidente du directoire de Raseo, hein, je vais le redire, une des grosses sociétés d'investissement de la place de Paris. Accompagner, ça veut dire rester un bout de temps, parce que souvent on accuse les fonds de rester 3 ans, hop, on prend notre plus-value et on repart. Ce qui n'est pas le cas dans des sociétés d'investissement comme vous. Vous êtes là la plupart du temps sur du très très long terme.
Laissez-moi vous dire deux petites choses. Le modèle de Raise est très vertueux aussi, parce qu'il y a une sorte de renouvellement. Donc on est dans du circulaire et de l'investissement de private equity, ce qui est assez formidable, puisque avec la fondation, vous refinancez des nouveaux projets qui vont avoir besoin d'eux. Donc on est dans une économie circulaire que j'aime bien. Et par ailleurs, il n'y a aucune incompatibilité entre de l'exigence, de la recherche de performance, de la discipline. Et donc on est dans un secteur d'activité qui, comme tous, est difficile. Et par ailleurs... de la bienveillance, de l'accompagnement, des valeurs, de l'engagement, de la responsabilité. Il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux. Et pour répondre à la question d'Emmanuel, un accompagnement qui peut être sur quelques années ou sur une décennie. On a autant d'exemples sur quelques années que sur une décennie. Vous citiez Moncler tout à l'heure, nous les avons accompagnés presque 10 ans. Donc ce sont des histoires. On écrit un chapitre, plusieurs chapitres de la vie d'une entreprise, et j'aime à être convaincue qu'il y a un avant et un après Euraseo, compte tenu de ce qu'on apporte aux entreprises en termes d'engagement sociétal et évidemment environnemental, en termes de digitalisation, mais et aussi en termes de vision du monde et d'ambition plus globale.
Et Virginie, il y aura un avant et après Rège aussi.
Virginie Morgon, là on vient d'entendre avec Gonzague de Binière, hein, c'est reversé, hein, grâce à leur fondation, reversé pour avoir des projets à vocation philanthropique. Vous aussi, chez Euraseo, vous avez changé de raison d'être en quelque sorte, avec le Power Better Growth, la meilleure croissance, hein, si on peut le traduire comme ça, il y a quelques semaines. Pourquoi vous positionnez là-dessus, chez Euraseo, vous cherchez quoi ?
Alors, Power Better Growth, oui, investi pour une croissance durable. Mais c'est assez efficace en anglais, j'aime bien. Parce que depuis des années, plus de 15 ans, et c'est la conjonction de compétences et d'engagements individuels au départ, Euraseo, petit à petit, se fabrique un positionnement engagé, responsable, sociétal, avec à l'origine mes engagements que vous connaissez bien pour la diversité au sens large, et bien sûr l'équilibre des genres, et puis d'autres de mes associés très engagés pour le climat. Donc nous accélérons, nous commençons
mais
à publier.
Mais pourquoi vous accélérez maintenant ?
Nous accélérons depuis déjà pas mal d'années, puisque quand nous lançons au plus en septembre 2020, qui est notre nouveau programme ESG, nous y travaillons 18 mois avant les annonces. C'est très technique, très compliqué, très engageant, avec le pilier climat, selon la fameuse, en tout cas pour les experts, la fameuse trajectoire de Science Based Target, extrêmement difficile et complexe, mais tout à fait atteignable, à moins de 2 degrés pour la société Euraseo et surtout ces sociétés du groupe Le Portefeuille, les 450 entreprises.
Vous n'investissez que dans des entreprises qui sont capables de tenir cet objectif de réduction.
Ça fait partie des critères.
Et de s'engager pour contribuer avec l'ensemble des autres à atteindre cet objectif. Donc il y a quelques exclusions, bien sûr. Vous ne me verrez pas investir dans du pétrole et du gaz. Je ne suis pas née dans le pétrole et le gaz, donc ce n'est pas aujourd'hui que je vais faire des investissements dans ce secteur. Mais vous me verrez continuer à investir dans des entreprises industrielles dont le mix énergétique n'est pas encore le bon, mais dans lequel nous investirons pour passer sur de la biomasse ou des équivalents.
Gonzague de Blinière, cofondateur de Raise. Là, en cette année si spéciale, vous avez investi dans quoi ? Il y a des secteurs encore qui ont émergé chez vous ?
Enfin, des secteurs, non. C'est surtout des hommes et des femmes qui sont vraiment courageux. Et nous avons un fonds d'impact qui est là directement investi dans des structures à impact, dans des sociétés à impact. On investit par exemple chez Hype, qui est la première compagnie de taxi à Paris à l'hydrogène. On investit chez Castalli, qui fabrique les fontaines à eau. J'espère que vous avez du Castalli ici chez Europe 1. On va investir aussi dans d'autres entreprises. Je voudrais dire ce que disait Virginie, c'est vrai, c'est ce cercle vertueux. Par exemple, la fondation Recherpa, qui a bénéficié de 50% de nos fameux dons de les équipes, a financé le premier prêt d'honneur, qui était de 100 000 euros, de Mano Mano.
Qui est aujourd'hui le leader européen du bricolage, qui est aidé par Eurasio et qui a été un des invités de la France Bouge il y a quelques semaines.
On les a connus, ils étaient une vingtaine, maintenant ils sont, donc c'est extrêmement vertueux. Et les gens chez nous, tous nos associés travaillent ensemble. La Fondation travaille avec les investisseurs avec la Fondation.
Virginie Morgon, vous êtes une exception. Vous êtes l'une des seules femmes à la tête d'un gros fonds d'investissement ou société d'investissement. Vous êtes deux, je crois, à Paris, hein, pas beaucoup plus.
Trois avec Clara Guémard.
Trois à la tête de Clara Guémard. Qu'est-ce qui fait que vous y êtes arrivée, vous ?
Il y a beaucoup plus de femmes qu'on ne le croit. Elles ne sont peut-être pas assez visibles. En tout cas, vous l'avez entendu.
Dans les équipes de fonds d'investissement, il y a moins de 10% de femmes.
Alors, chez Euraseo, on est 47% de femmes. Et dans les équipes d'investissement, 35%. Ce qui n'est pas encore là où j'aimerais être. Et quand on démarre aux États-Unis il y a 4 ans, c'est plus facile quand on démarre d'un terrain vierge. On est complètement à parité aux États-Unis. Donc, c'est parfaitement possible. Il suffit d'être déterminé et exigeant avec soi-même. Et deux, il y a beaucoup plus de femmes que celles dont vous nous faites l'honneur de citer ce matin. Mais il y a beaucoup plus de femmes dans le secteur. Par ailleurs, puisque la seule chose que nous faisons en permanence, c'est d'exercer un jugement sur un métier, sur un secteur, sur des équipes, il était absolument évident que nous sommes bien meilleurs à exercer ce jugement en étant diverses, aussi bien en genre qu'en culture, qu'en nationalité, qu'en étant les mêmes. Donc c'est fondamental dans nos métiers, particulièrement dans nos métiers, d'être diverses.
Merci en tout cas à Gonzague de Blinière d'être venu dans la France Bouge. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Raise avec Clara Guémard.
Merci.
Et merci à vous, à Virginie Morgon. On vous garde encore un petit peu, vous êtes notre grande témoin jusqu'à 14h.
Europe 1, la France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Et c'est le moment chaque jour où l'on découvre justement nos pépites de demain. Oui, ce sont les trophées Europe 1, la France Bouge avec une remise des prix le 9 juin prochain. Ça approche et aujourd'hui ça se passe, attention, hein, devant l'œil attentif de quelqu'un qui s'y connaît. Sûrement parmi les personnes qui s'y connaissent le mieux en France, Virginie Morgon, la présidente du directoire de Euraseo.
Et l'indispensable Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc place maintenant au pitch du jour.
Alors,
avec un projet qui a été lancé il y a quelques semaines. Ça a été lancé il y a un mois pile, le 2 avril. Un projet né de la crise sanitaire. C'est tout jeune, mais nous on a envie de vous aider à la France Bouge. Bonjour Virginie Bernois.
Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir.
Merci à vous. Vous avez 33 ans, vous êtes la cofondatrice d'un dîner pour le climat.
Oui.
C'est une jeune start-up qui prépare et qui livre des menus avec une promesse, le plus bas impact carbone. une idée donc née de la crise. Vous avez voulu rassembler les restaurateurs et les restaurateurs fermés et les agriculteurs qui livraient aux restaurateurs. Vous êtes dit, on va les réunir. Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, c'est parti pour votre pitch. Vous avez une minute.
Merci beaucoup. Juste pour rappeler, du coup, je suis cofondatrice de March 5 et en fait, qui a lancé cette initiative Un dîner pour le climat. Pourquoi on l'a fait ? En effet, vous l'avez dit, Un dîner pour le climat, l'objectif pour nous, c'est de montrer qu'il est possible de faire du très bon, de très bien manger, en faisant du très bien pour la planète. En fait, on est parti du constat très simple que nos agriculteurs partenaires avec lesquels on travaille, en fait, se sont trouvés démunis, puisque cette année, à cause de la crise du Covid, leur premier débouché le plus rémunéré qui étaient les restaurants, en fait, étaient fermés. Et d'un autre côté, il y avait en effet ces restaurateurs qui avaient très envie de retourner au travail. Et en fait, on a voulu réunir ces deux énergies. Et en moins de 3 semaines, on a monté un concept donc, qui s'appelle Un dîner pour le climat, qui est une chaîne positive de bout en bout. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On achète les bonnes matières premières auprès de nos producteurs, donc qui sont engagés depuis longtemps dans la transition agroécologique. Ça veut dire quoi la transition agroécologique ? Ça veut dire que ces producteurs vont permettre de produire des bons produits nutritifs pour l'homme qui vont permettre de restaurer la vie des sols, de remettre du carbone dans les sols. On en a parlé juste avant. C'est très important parce qu'ils contribuent aussi à limiter le changement climatique. Et on les fait transformer, cuisiner par des restaurateurs à Paris. On les fait livrer dans des emballages écologiques par des livreurs qui sont salariés à vélo, donc sans émission carbone.
Voilà. Et ben voilà. Déjà, je vous ai laissé un petit peu plus de temps parce que c'était important.
Vous avez été très gentil, Manuel.
Bah oui, mais je voulais bien comprendre.
Oui, bon, vous avez compris.
Désolée,
j'ai
merci.
Tout compris.
Merci pour votre pitch, en tout cas, Virginie Bernois, pour Un dîner pour le climat. Alors, je vous présente Nathalie Carré. Nathalie Carré, c'est notre fée de la Chambre de commerce et d'industrie qui analyse, qui épluche chaque dossier de candidature. Bonjour, Nathalie.
Bonjour, Elisabeth. Bonjour, Virginie. Bonjour, Emmanuel.
Bonjour. Alors, quelles sont les forces et les faiblesses d'un dîner pour le climat ?
Les faiblesses. Alors, les forces déjà. Ben déjà, c'est simple. Il y a 3 menus. Poisson, viande, végétarien, composé de plats simples à comprendre, un tarif tout aussi simple. Emmanuel,
35 euros. Je savais. Je me suis dit, allez, je me tais. Peut-être qu'elle s'en est pas rendue compte que j'ai oublié de donner le brie.
Donc, c'est important pour garder l'internaute captif.
Donc, 39 euros pour tout.
35, 39. 35 okay. Pour le végétarien, 39. Voilà. Donc c'est simple, voilà, c'est facile à comprendre, il n'y a pas de plus, etc. La valorisation de vos 3 principaux fournisseurs qui est très claire et qui donne de la cohérence à votre concept.
Et on les voit en photo en plus. Sur le site, on a les photos qui sont superbes, hein, faut le dire.
Très jolies. Très joli. Et puis, donc le prix qui est quand même accessible par rapport à votre démarche. Et puis, c'est tout bête, mais vous donnez des consignes pour réchauffer ces plats sans abîmer le travail du chef. Quelques petits points améliorés malgré tout. Alors, c'est tout bête, hein, mais quand on arrive sur le site, on voit le bouton « Commander en ligne ». Ajoutez tout de suite la liste des villes livrées, parce qu'en ligne, on pourrait penser que ce que vous livrez pour la France entière, ce qui n'est pas encore le cas.
Ce n'est pas encore le cas.
Vous avez beaucoup d'informations très intéressantes dans votre foire aux questions, mais tout le monde n'y va pas. Donc, vous pourriez ajouter un schéma, vous venez de le dire, de la chaîne positive dont vous parliez pour expliquer comment vous passez des champs à l'assiette en tenant votre promesse. Et ce schéma, il pourrait valoriser vos méthodes de travail, vos innovations, chacun de vos partenaires et membres de l'équipe, que ce soit l'ensemble des fournisseurs, Olvo qui gère la livraison, les chefs, etc. Et puis, pour engager les clients et continuer l'aventure dans la France entière, racontez plus votre démarche. Dites ce dont vous avez besoin pour aller plus loin. On ne sait pas qui se promène sur votre site internet. Peut-être des personnes sont prêtes à vous aider.
Alors, voilà. Qu'est-ce que vous répondez à Nathalie Carré ?
Ah bah, tout à fait. Merci beaucoup déjà pour ces très bons conseils. Je pense que vous avez tout dit. En effet, pour rappeler cette initiative, on l'a montée en 3 semaines. On l'a montée urgemment pour essayer de répondre finalement à la crise vis-à-vis de nos producteurs qui avaient besoin de valoriser leurs produits. On prend vraiment tous ces bons conseils et oui, notre objectif, c'est d'essayer de pérenniser cette initiative. Donc, on est en train
et
d'essayer
d'élargir
de
au-delà de Paris.
Exactement, de l'élargir au-delà de Paris, de voir comment est-ce qu'on peut au mieux valoriser les produits des producteurs qui contribuent à sauver la planète.
Pardon, mais qu'est-ce qui va vous différencier avec d'autres entreprises qui le font déjà après la crise ?
D'autres entreprises qui le font déjà ? Par exemple, vous parlez des restaurateurs ?
Des entreprises de livraison qui nous livrent des restaurants tous les jours.
Voilà, notre objectif, en fait, c'est vraiment bien de valoriser le bon travail qui part du champ. Donc, des bons produits bien produits, des producteurs qui s'engagent dans la transition agroécologique. C'est vraiment ça notre point de départ. Hein. On se place du côté des producteurs et on cherche à bien valoriser leurs produits.
Donc, il faut le mettre en avant sur le site internet.
Virginie Morgon, je rappelle que vous êtes la patronne du directeur de Razéo, société d'investissement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Là, si on arrivait dans votre bureau avec ce projet.
Alors, d'abord, j'écoute Virginie avec attention. Ensuite, j'aime bien, la chaîne positive. J'aime bien du champ à l'assiette, très efficace en marketing. Retour au local, consommation locale. L'envie d'être un peu dans un village et de savoir qu'on aide directement des gens qui sont proches de nous. Donc le positionnement, pour peut-être répondre à la question d'Elisabeth à l'instant, le positionnement différencié par rapport à toute l'offre que nous avons aujourd'hui, c'est justement l'impact carbone très positif et l'impact local sur une communauté qui est proche de nous et une envie de bienveillance, d'empathie et d'entraide. Après, la question de l'investisseur, c'est la capacité à aller chercher du volume. Il ne faut évidemment pas s'arrêter au dîner, parce que je pense que le dîner est un marché plus restreint que le déjeuner. Et je pense que le déjeuner aurait plus de potentiel dans ce que sera le post-Covid, dans un environnement professionnel qui va rester très mouvant, très à la maison, très en mobilité. Et donc, il y aura un énorme besoin de continuer avec une offre dans ce type de positionnement. Donc, moi, j'élargirais au déjeuner, mais c'est sûrement le cas. C'est pas le, je ne pense pas que le nom, le dîner, pour un climat soit restreint. Donc, il faut aller chercher le modèle où vous gagnez de l'argent avec du volume et une capacité à servir bien au-delà, bien sûr, de l'Île-de-France.
Voilà, c'est, franchement, là, vous avez la totale. Hein. Virginie Bernois, vous avez besoin de quoi en ce moment? Vous avez besoin de lever des fonds, j'imagine?
Alors là, pour l'initiative, on a vraiment besoin de visibilité, hein, parce qu'on a vraiment 100% de retour très positif. Donc ça, c'est la première des choses. Déjà, donc, je suis ravie de pouvoir en parler ici.
Et ensuite, de chefs partout en France, j'imagine.
Et on a,
c'est quand
ensuite,
les restos vont rouvrir, tout le monde va retourner au fourneau. Donc,
exactement, nos chefs, évidemment, vont retourner au fourneau. C'est bien tout ce qu'on leur souhaite. Donc oui, on a besoin de chefs, mais on a aussi besoin de producteurs qui sont engagés. Si on veut accompagner cette démarche plus globalement, nous, encore une fois, notre objectif, c'est de se mettre du côté du producteur, les identifier, les aider à accélérer la transition. Donc, en fait, oui, on a besoin de fonds pour aller, évidemment.
Allez, combien aller plus vous, vite. Vous avez déjà estimé?
Non, c'est en cours. On est en cours, on est en cours de réflexion par rapport à ça.
Merci à vous. Ça s'appelle un dîner pour le climat. Merci Virginie Bernois et on vous souhaite bonne chance dans votre projet.
Et comme toujours, un grand merci à Nathalie Carré qu'on retrouvera bien évidemment dès demain pour ses conseils. Et si vous aussi, vous voulez venir présenter comme ça votre projet d'entreprise, eh bien c'est très simple. Vous nous envoyez un mail à e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous pourrez peut-être comme ça faire partie des candidates ou des candidats en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.
Virginie Morgon, vous restez encore avec nous quelques minutes?
Avec grand plaisir.
Vous êtes la présidente du directeur d'Euraseo. Vous êtes notre témoin du jour et à suivre demain au travail.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
La France bouge, nous sommes toujours en direct avec notre témoin du jour, Virginie Morgon, la présidente du directoire d'Euraseo, société d'investissement.
Et demain au travail, parce que notre monde change, nos entreprises s'adaptent. La France bouge appelle celles et ceux qui ont décidé de placer l'humain au cœur de leurs préoccupations.
Puis nous, on cite une entreprise comme ça pendant l'émission, hop, on décroche notre téléphone pour voir si tout va bien.
Et bien comme vous, Marlène Rigaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice marketing de la société Castalli. Castalli, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Vous proposez une alternance durable, comme vous dites, entre aux eaux en bouteille en plastique. C'est une entreprise qui a 10 ans, plus d'une centaine de collaborateurs. Et si vous êtes dans la France bouge, là, en direct, c'est parce qu'à la fin de l'année dernière, fin 2020, vous avez dit « j'ai envie de changer les idées des salariés hein. ». On sort d'une crise, on est en pleine crise. Vous avez eu envie de recréer du lien. Et là, vous avez fait appel à une start-up qui propose des team building en ligne. Racontez-nous.
Exactement. Enfin, de base, fédérer les équipes et faire en sorte qu'elles se sentent bien, ça a toujours été un sujet important chez Castalli. Mais c'est sûr que là, avec la crise qu'on traverse depuis un an, c'est devenu au cœur de nos priorités. On voit bien le moral des troupes qui baissent. On voit bien que c'est difficile pour les collaborateurs, hein, on le sait. Il y a des statistiques qui le prouvent. On est convaincus que les entreprises qui s'en sortiront mieux sont celles qui auront le plus pris le soin de leurs collaborateurs pendant cette période compliquée. Donc effectivement, fin d'année dernière, je me suis dit... Je ne vais pas m'empêcher d'organiser quelque chose avec mon équipe, même si on ne peut pas faire du présentiel. Et donc, j'ai fait appel à Funbooker, dont j'avais déjà entendu parler et que j'ai rapidement trouvé sur Internet.
Et concrètement, vous avez fait quoi alors?
Alors, Funbooker, c'est une plateforme en ligne, hyper intuitive, hyper facile d'accès, où en fait, vous avez accès à un éventail d'activités absolument incroyables. En ligne ou pas, mais là ils ont vraiment fait un focus justement pendant cette période sur toutes les activités en ligne qu'on pouvait proposer de team building. Donc en fait c'est très simple, hein. C'est comme si vous réserviez un loisir en ligne, vous choisissez vos activités et
sauf que là c'est avec ses collègues.
Voilà, exactement.
On va prendre un exemple, je crois que vous avez fait par exemple une dégustation œnologique.
Alors j'en ai fait deux en fait, parce que j'avais deux objectifs différents. J'avais un objectif qui était vraiment assez classique, favoriser la communication, fluidifier les échanges inter-équipes. Et là, j'ai fait un escape game en ligne. sur la thématique Casa del Papel. C'était vraiment, ça a vraiment répondu à l'objectif, parce que je pense que même en vidéo, c'est encore plus compliqué justement de communiquer et de s'écouter. Donc en fait, ça répond encore mieux à cet objectif de communication inter-équipe.
Et les retours ont été bons? Ils étaient contents, vos salariés?
Ah bah, ils étaient hyper contents. D'ailleurs, on va remettre ça au printemps. Mm-hmm. Je vais refaire appel à Funbooker, parce que j'étais super contente. Et donc, on va refaire appel à Funbooker pour faire autre chose. Et donc, effectivement, le deuxième objectif, c'était juste de faire du bien, de changer les idées, de se détendre.
Et de se détendre. Virginie Morgon, vous êtes la présidente du directoire de Razéo. Vous faites comment pour détendre vos salariés, vous, chez Razéo?
Je crois que Marlène a raison. Les deux sujets, pour moi, principaux depuis un an, ça a été d'abord de faciliter le quotidien de nos équipes. Donc avec des choses peut-être moins glamour que du coaching à distance ou des escape games, mais ce qu'il fallait en termes d'équipement pour avoir un véritable télétravail efficace, pas trop fatigant. Là, on vient de lancer, je trouve que c'est une très bonne idée, un forfait de mobilité durable. Donc on aidera les salariés qui veulent venir et se déplacer maintenant en vélo ou en équivalent financièrement. Et puis le deuxième enjeu, il a été celui de garder du lien. Et ce qui ressort très clairement de toutes nos études, et tout le monde a mené ce type d'enquête au sein de ses propres équipes, auprès des 300 salariés, femmes et hommes de Razéo, c'est que l'envie, quand on est au bureau, c'est celui du partage. C'est pas celui de travailler, on peut très bien travailler à la maison, c'est celui du partage.
Ce lien.
Donc ce fameux lien, il faut des intranets, il faut des zones de réunion différentes, et on a fait beaucoup de cours de sport, de top chef en ligne, très sympathique.
C'est la fin de votre émission. Merci donc à vous, Marlène Rigaud, directrice marketing de la société Castalli, qui remotive ses équipes. Merci à notre grande patronne du jour. Merci à vous, Virginie Morgon, d'être venue dans la France Bouge. Je rappelle que vous êtes la présidente du directoire de Razéo.
Et demain, émission spéciale sur la réindustrialisation. On sera en direct de la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, en l'occurrence à Lille. Et on sera avec le patron du site Donin de Toyota, l'une des plus grosses entreprises automobiles maintenant de France.
À demain, en direct de Lille. Tout de suite, dans un instant, Christophe Ondelat, et ce sera juste après le flash.
C'était La France Bouge avec la Caisse d'Épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'Épargne, vous être utile.